Communément appelé le Saint de Toulouse, le Père Marie-Antoine fait l'objet de différents hommages. Hier a été inauguré, en présence de Jean-Luc Moudinque et de Monseigneur Le Gall, la réactualisation d'une exposition qui lui est consacrée dans la basilique Saint-Sernin à Toulouse. Et le 11 décembre seront également inaugurés une allée et un buste du Père Marie-Antoine à Toulouse également. Alors ces hommages sont-ils annonciateurs d'avancées dans son procès de béatification? Nous voyons cela avec mon invité. Bonjour Jacqueline Bellet.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes présidente de l'APMA, c'est l'association du Père Marie-Antoine. Vous connaissez bien la vie et la spiritualité de ce prêtre que vous vous attachez d'ailleurs à nous faire découvrir sur ces ondes, ici même, à travers votre chronique de la nouvelle évangélisation. C'est chaque jour à 6h15. Jacqueline Bellet, vous étiez évidemment hier, hein, c'est vous la fervente proche de ce père. Vous y étiez hier à cette inauguration. D'un mot, comment ça s'est passé? Beaucoup d'émotions, j'imagine.
Oui, beaucoup d'émotions, parce que c'était le premier hommage depuis bien longtemps, finalement, que le donnait Toulouse. Mais son exposition que nous avons inaugurée là a fait quand même le tour de France, l'année de son centenaire, puisque... On était allé dans 50 lieux, cathédrales, basiliques, pour marquer les 50 ans de son apostolat. Et voilà, mais on a été... C'était émouvant et il y avait beaucoup de monde.
Et oui, et du beau monde, si je puis me permettre. Jean-Luc Moudinque, Monseigneur Le Gall, ses hommages...
Oui. Il y avait le capucin responsable de tous les capucins de France, le provincial,
aussi.
Éric Bidault.
Alors ces hommages, est-ce qu'ils annoncent une grande nouvelle pour bientôt, hein? Je rappelle que son procès en béatification avait été introduit en 1928. À l'époque, c'était par le cardinal Saliège. Où en sommes-nous, Jacqueline Bellet?
Je crois qu'on arrive au terme.
C'est-à-dire?
On arrive au terme dans la mesure où pour être béatifié, il faut d'abord être vénérable. Il le sera de façon à peu près certaine. Autant que ce genre de choses puisse être certain, en janvier.
Ah, ça, c'est une annonce. En janvier, le saint de Toulouse pourrait être...
Vénérable.
Et être sur la première marche avant la canonisation.
Tout à fait. Et ensuite, il faut un miracle pour la béatification, un miracle après sa mort. Le miracle aussi, et le processus est engagé, il est déjà reconnu sur le plan juridique à Rome, et il est entre les mains d'experts extérieurs à Rome pour sur le plan médical maintenant, et puis après ce sera terminé.
C'est un peu l'œuvre de votre vie, ça. C'est vous qui avez ressaisi ce dossier. Il était tombé dans les oubliettes.
On l'avait pas oublié dans les familles, dans certaines communautés, etc. Mais c'était devenu très privé, dirons-nous. Et aujourd'hui, par la publication, nous avons créé une maison d'édition, on a donc publié une quarantaine d'œuvres. Il y a eu beaucoup de livres qu'on a ressortis, qui avaient été écrits sur lui, même en Allemagne, en Angleterre, en fait, dans plusieurs langues, en italien, en espagnol. Il y a eu plusieurs vies du Père Marie-Antoine. Alors tout ça maintenant ressort.
Et tout ça ressort pour le grand bonheur des Toulousains qui peut-être bientôt auront un saint. Alors saint, il l'était déjà dans le cœur des Toulousains, dans le cœur des familles. Il l'était par la vox populi. On va revenir sur son charisme. Vous allez le présenter à ceux peut-être plus jeunes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas le saint de Toulouse. À ses obsèques, m'avez-vous dit, c'était en 1907, 60 000 personnes se sont pressées. Qu'est-ce que le peuple de l'époque avait déjà perçu de lui, Jacqueline Bellet?
C'était pour les gens de son époque, dès l'âge de 40 ans, le saint de Toulouse.
Ouais.
Et on disait que son attitude était déjà une prédication. Sa bure de franciscain, ses pieds nus par tous les temps. Et il avait un tel regard, lorsqu'il était par exemple devant le tabernacle. C'était vraiment un mystique autant que missionnaire.
Un mystique autant qu'un
missionnaire. Ça a été redit d'ailleurs par le père Éric Bidault hier soir. Et c'est en cela qu'il est peut-être un exemple aujourd'hui.
Et c'est, il est connu, je crois, le père Marie-Antoine, le saint de Toulouse, dont nous parlons ce matin, pour c'était le prêtre des pauvres aussi, je crois. Il n'y a pas une catégorie de personnes en difficulté qui n'ait été épargnée. Hein. Il a été proche des hôpitaux, des prisons. Il a créé la confrérie des petits métiers.
Oui. Il avait compris que les associations c'était important. Et déjà au séminaire, c'était un meneur, ses compagnons le suivaient. Et il a fondé plusieurs associations, ce que vous citez, pour visiter les prisons, du Saint-Sacrement, des petits métiers, qui ont d'ailleurs perduré. Et c'est vrai que le fait de savoir s'adresser aussi bien aux paysans à 6 heures du matin, à la messe de très tôt en patois, qu'à des gens très distingués, il avait une très grande culture et il pouvait s'adresser vraiment à toutes sortes de gens. Et c'est sans doute ce qui a fait, avec cette réputation de sainteté, le fait qu'ils étaient entre 50 et 60 000 personnes à ses obsèques, qui ne s'est jamais revu, ni à Toulouse, ni ailleurs d'ailleurs.
Ni à Toulouse, ni ailleurs, des obsèques pour un prêtre, un petit capucin, mais vous l'avez dit, et c'était un mystique autant qu'un missionnaire. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Et en cela qu'il nous inspire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut autant l'action que la prière. La prière de ceux qui sont autour, de ceux qui agissent, et la prière de ceux qui entendent, la prière de ceux qui vont le suivre pour agir à leur tour. Tout doit se faire avant, pendant, après par la prière. Et ça, le père Marie-Antoine, non seulement il l'était, mais il savait le dire et entraîner les gens à le faire. Et il était crédible.
Et il était crédible et il a prêché énormément de missions. Hein. Il a eu l'occasion de prêcher, on compte à peu près 700 moments, 700 missions. C'est quelque chose de cet ordre-là.
Donc 450 missions, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et presque toutes ces missions se terminaient par une érection d'une statue ou d'une croix dans le paysage, et quelquefois les deux. Donc beaucoup, beaucoup de ces croix et de ces vierges viennent du père Marie-Antoine, en fait.
L'apôtre du Midi, c'était également son nom, hein, son nom qu'on lui donnait déjà à l'époque. Il était déjà santo subito, presque, hein, en quelque sorte.
Hein. Absolument, je dis, il n'avait pas 40 ans que déjà. Bon, il avait fondé son couvent à 32 ans.
Il a fondé son couvent à 32 ans, vous faites bien de le dire, le couvent de la Côte Pavée.
Hein, oui, où sont les carmes aujourd'hui.
Il repose actuellement.
Un énorme couvent qu'il a d'abord quêté. Il est arrivé sans argent. Il a d'abord quêté pendant 2 ans. Et puis ensuite, il l'a fait bâtir.
Évidemment, quand on pense au père Marie-Antoine, on ne peut pas ne pas penser à Lourdes. Vous allez nous dire, il a un lien particulier, évidemment, avec Lourdes. Il a rencontré Bernadette.
Il a rencontré Bernadette... Ou le 30 juin ou le 2-3 juillet, en tout cas avant la dernière apparition, il lui a donné la communion, elle a entendu dans sa messe, et il a eu plusieurs entretiens ensuite, il y a de très beaux qu'il raconte dans ses livres, dans un de ses livres, et de très beaux moments entre Bernadette et lui, et il était un ami du curé de Lourdes et il a pu faire vivre les premières années de Lourdes où tout était inventé, toute la liturgie populaire de Lourdes, que ce soit la procession flambeau, la procession des malades, du Saint-Sacrement, la prière nocturne. Tout ça,
Lourdes ne serait pas Lourdes aujourd'hui sans le père Marie-Antoine.
En tout cas, il a su donner très vite une présence à Lourdes par son amour de la Sainte Vierge. Et c'est là où on voit, au fond, le père Marie-Antoine faisait tout par amour. Et c'est là où on voit que quand on a une foi à entraîner des montagnes, c'est le Christ qui l'a dit, mais cet amour qui... qui sublime un peu tout, on peut faire des miracles. Et on savait que quand le Père Marie-Antoine était là, il y aurait des miracles.
Et alors là, c'est Saint-Cernin. C'est quoi son lien avec Saint-Cernin? Pourquoi est-ce que c'est à la basilique Saint-Cernin qu'aujourd'hui les hommages ont lieu?
Alors c'est vrai qu'il a prêché pratiquement dans toutes les églises de Toulouse. Mais il avait une prédiction à propos de Saint-Cernin. D'abord, quand on l'a envoyé à... Donc, il n'avait même pas 32 ans. Quand on l'a envoyé à Toulouse, il était à Marseille. Il venait d'être fait capucin. Et puisqu'il a été d'abord vicaire à Saint-Gaudens pendant près de 5 ans. Ensuite, il a entendu l'appel franciscain. Il est allé à Marseille se former. Et ensuite, donc, à 31 ans et demi, on l'a envoyé à Toulouse. Et dès qu'il est sorti du train... Une ligne qui venait d'ailleurs de se créer, c'était en 1851. Il est allé sur la tombe au tombeau de Saturnin, lui confier sa mission.
D'où ce lien. Alors, Jacqueline Bellet, nous sommes ensemble, on parle du saint de Toulouse, saint par la vox populi dès qu'il est à son plus jeune âge, hein, quand il avait 40 ans. Saint, peut-être le saura-t-il bientôt? Vous m'avez dit tout à l'heure, il reprend du service. Ça y est, oui, il reprend du service. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est clair qu'il ne revient pas pour faire joli. Voilà, un bus, ça, il allait très bien. Mais il ne vient pas pour faire joli. Il revient réellement et on le sent très fort par tous les outils qu'il nous a donnés depuis 15 ans qu'on s'occupe de lui en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire
Je vais finir d'abord ma phrase. On sent que vraiment, Il revient pour travailler et pour nous faire travailler. Bref, pour montrer. Et votre chronique, quotidiennement, justement, fait revivre un peu ses enseignements par ses écrits, mais ses enseignements surtout par ce qu'il était, parce que ce que ses contemporains disaient de lui, déjà, ce côté exemplaire. Il nous apprend à être missionnaire avec ses tripes, toujours avec amour.
Est-ce que vous diriez qu'il est en quelque sorte prophétique, le Père Marie-Antoine?
Il l'est souvent. Il est très actuel. C'est même tout à fait surprenant comment il fait vivre. On sait par l'Évangile qu'il y aura une unité sur la terre avant le retour du Christ, par exemple. Mais lui, ça, il le fait, il le dit d'une façon extrêmement concrète sur un plan collectif, extrêmement concrète pour chacun. Et c'est en ce sens qu'il est très prophétique.
Merci beaucoup Jacqueline Bellet de nous avoir fait revivre en quelque sorte le message du Père Marie-Antoine. Père Marie-Antoine qui est à l'honneur ces jours-ci dans la Ville Rose le 11 décembre, hein, je rappelle, sera inauguré l'allée, le buste du Père Marie-Antoine. Et puis évidemment jusqu'au 6 décembre, vous pouvez dans la basilique Saint-Cernin rejeter un coup d'œil à cette exposition qui a été réactualisée. Et puis je reprends cette annonce que vous nous avez faite, Jacqueline Bellet, hein, qu'il devrait probablement, aussi certainement que nous puissions l'être aujourd'hui, il devrait probablement être déclaré vénérable en janvier. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous, Isabelle.